France Inter. Nicolas Demorand, le 7-9.
Bonjour Claude Ascolovitch.
Bonjour Nicolas.
La revue de presse avec pour commencer un procès ce matin.
Qui fait la une de l'Union à Reims et qui évoque également Le Parisien et l'Humanité. Un procès qui vint bien tard, 7 ans après la mort de deux hommes ensevelis sous 3000 tonnes de sucre. C'était le 13 mars 2012 à Bazancourt dans la Marne. Ils s'appelaient Arthur Bertelli et Vincent Dequin. Ils étaient cordistes employés comme intérimeurs par la société Carrar Service pour faire disparaître les agglomérats de sucre compact qui collaient aux parois du plus grand des silos du géant du sucre Cristal Union. À 11h30, 10 minutes après le début de leur mission, le sucre s'est mis à glisser, couler comme un sablier. Arthur est parti le premier. Vincent ensuite qui a pu crier « Coupe ta corde, t'es pas dedans !» à Frédéric Soulier qui était au-dessus de lui et qui a coupé la corde et qui s'est mis à hurler pour que l'aide arrive. Elle ne venait pas, il ne s'en remettra jamais Frédéric et va le raconter à partir d'aujourd'hui au tribunal correctionnel de Reims où les représentants de Cristal Union et de Carrar Service répondront des faits d'homicide, de blessure involontaires commis par violation manifestement délibérée d'une obligation de sécurité ou de prudence imposée par la loi ou le règlement. Long, intitulé, pour comprendre comment deux hommes sont morts, deux de ces cordistes qui gagnent quelques 10 euros de l'heure et que les accidents si souvent rattrapent. Le 21 juin 2017, Quentin Zaroui-Brua, 21 ans, est mort à son tour. C'était encore à Bezancourt. Lui fut enseveli sous des tonnes de déchets de grains de céréales dans un silo de la société Cristanol, filiale de Cristal Union, qui fabrique du carburant végétal. L'employeur de Quentin mettait la pression sur ses intérimaires. Si vous ne descendez pas, vous n'êtes pas des hommes. L'histoire de Quentin est racontée sur le site Bastamag, un site engagé et qui retrace la condition des ouvriers précaires et donc de ces cordistes souvent itinérants qui ont leur porte-parole, savez-vous, l'un d'entre eux qui est aussi écrivain, Éric Louis. Il avait connu Quentin dans un silo où ils transpiraient ensemble et il a écrit un livre, On a perdu Quentin, pour que nul n'oublie ce môme posé, enjoué, gentil, attachant, volontaire qui venait travailler en Champagne depuis ses Côtes d'Armor dans une 306 Peugeot à bout de souffle. Vous lisez Éric Louis dans Bastamag, vous lisez également dans un autre journal en ligne, labrique.net, où il a parlé de Quentin juste après sa mort. Je mettrai les liens sur notre site. Ce sont des dessins obscurs. Les voit-on ? Je vous en parle en un hiver de colères et de méfiance. Le Figaro fait sa une et raconte la grande défiance des Français envers les institutions, d'après une étude du Centre d'études de la vie politique française. Quand vous pensez à la politique, pouvez-vous me dire ce que vous éprouvez d'abord ? Du dégoût, 32%. Les Français ont confiance dans les hôpitaux, dans les PME, dans l'armée, dans la police, dans l'école et dans la sécurité sociale et dans les associations. Ils ne croient pas les politiques, ils nous croient à peine, nous les médias. Il y a la crise des gilets jaunes en témoigne. Un procès récurrent fait aux journalistes de méconnaître ce que vivraient les classes populaires. On peut ce matin pourtant, entre l'Union et Bastamag, trouver de quoi nous innocenter.
Et une femme est en guerre dans Society.
Johanna Palani, 25 ans, la tueuse de djihadistes, Tito Society. Elle avait 18 ans, cette jeune femme, quand elle a quitté son Danemark pour rejoindre les Kurdes de Syrie. Elle aurait tué 100 djihadistes dans son parcours de sniper. Mais ses exploits n'en font pas une héroïne au Danemark qui se méfie d'elle et elle serait également menacée par les islamistes qui auraient mis sa tête à prix, 1 million de dollars. Et vous verrez, il se dégage à la lire de cette jeune femme une terrible tristesse. Elle est née dans un camp de réfugiés en Irak. Elle a grandi dans le souvenir des Kurdes gazés par le régime de Saddam Hussein. Elle a connu les coups de ses parents qui avaient peur que la société danoise où ils s'étaient réfugiés aille corrompre leurs enfants. Elle n'a trouvé que la mort pour grandir, la joie adolescente d'abattre un cerf d'une balle en entre les deux yeux, vous devez bien démarrer par quelque chose, dit-elle. Elle est pourtant, Johanna, une héroïne, si les Kurdes de Syrie sont des héros. Le Point consacre un dossier fort et indigné à ce peuple que l'Occident abandonne alors qu'il a lutté pour nous contre les djihadistes. On apprend dans Le Point que la Turquie s'est accaparée les oliviers et l'huile d'olive, trésor de la région d'Afrin qu'elle a conquise. On apprend que la même Turquie recruterait d'anciens djihadistes contre les Kurdes infidèles, ces Kurdes pour lesquels la pauvre Johanna a tué pour elle et pour eux.
Et on termine avec des réfugiées syriennes, Claude, devenues cuisinières.
Elles sont racontées dans le magazine du Monde, que vous lirez tout à l'heure en kiosque ou sur le web dans notre matinée, et qui enrichissent la tradition culinaire éclectique de la bonne ville de Toronto. Et la nourriture, donc enfin, est une autre vérité de ce monde, et elle a ce que nous avons de meilleur ce matin. Les Échos, affichent un empereur à la une de leur magazine, car Alain Ducasse est le dernier empereur de la cuisine française depuis les morts de Bocuse et Robuchon. Et c'est un long portrait d'un homme de puissance dont le nom est un label. Ducasse Conseil, Ducasse Éducation, Ducasse Culture, Ducasse Hospitalité. Il forme à la cuisine en France, aux Philippines et au Brésil. Il sillonne son empire de Kyoto à Meudon, Los Angeles, Rochester. Il peut faire 32 heures d'avion la même semaine, ce monsieur Ducasse. Mais attention, le patron a l'œil à tout et même à la tranche de pain de sarrasin que l'on sert au Meurice. Une demi suffira, ne gaspillons rien. Il est resté le maître et qui peut deviner, rien qu'en les regardant, que les quenelles du menu chasse du même Meurice ne sont pas souples. Il cuisine toujours, jure-t-il, et si vous ne croyez pas, allez dans sa cuisine, il vous défie. Splendide guerrier que ce monsieur Ducasse, farouche guerrière que ces demoiselles Amélie Darvas et Gabi Benicio, respectivement chef et sommelière, qui ont ouvert l'été dernier à Vaillant, village de l'Hérault, un restaurant nommé Aponème qui signifie bonheur en Pataxio, langue indigène du Brésil. Le bonheur donc dans l'état pour conjurer tout le reste. Nous sommes aujourd'hui, Nicolas, le jour des bibes gourmands décernés par la maison Michelin. La montagne en fait sa une et célèbre à Clermont-Ferrand le bistrot d'à côté, le chardonnay, un grain de saveur de cuisine fraîche, bistronomique et de produits de saison. C'est bon à savoir.
Merci Claude Askolovitch pour la revue de presse. Les Bobineaux, Thomas Legrand.
Oui.